ce matin, et ce ne sera pas difficile puisque c'est le cœur du sujet, mais d'un point de vue uniquement, plus spécifiquement technologique, la lignée donc de détection précoce dans le cadre d'un dispositif préventif. C'est vrai qu'un aéroport, c'est très compliqué. Un aéroport, c'est parfois même un vecteur vital pour certaines régions, voire parfois des pays. Et malheureusement, c'est aussi vulnérable et complexe que vous l'avez expliqué. Donc, on va essayer de parcourir ça de façon progressive. On va déjà commencer par redéfinir du point de vue de la sûreté aéroportuaire, comment est-ce qu'on regarde le risque et la menace par rapport à l'historique donc des attaques, et effectivement jusqu'à la période charnière de l'année 2001 et des 5 années qui ont ensuite suivi. Et c'est vrai que l'avion a toujours été une entité, une cible privilégiée et une entité très vulnérable. Pratiquement tous les vecteurs d'introduction qui gravitent autour des avions sont des possibilités pour les experts planificateurs d'attaques, et on verra qu'ils ont tous pratiquement été utilisés malheureusement ces 50 dernières années, surtout ces 10 dernières années. Donc les concepts et les principes qui en découlent par rapport à la sûreté préventive, bien évidemment, reprennent en boucle la protection de ces différents vecteurs de façon systématique et à différents niveaux. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, avec peut-être un regard un peu plus technologique, puisque ce qui est intéressant et rigolo, entre guillemets, c'est de voir parfois des technologies ou des sciences auxquelles on n'aurait pas pensé, qui peuvent trouver une application civile après avoir été militaire dans la détection intégrée à l'exploitation du transport aérien. Donc on parlera évidemment donc de sectorisation, un tout petit peu de biométrie qui existe déjà depuis quelques années. Vous avez parlé tout à l'heure d'identité virtuelle ou réelle. C'est vrai que la biométrie ici joue un rôle majeur dans les projets à venir, mais elle joue déjà un rôle pas mal dans ce qu'on appelle la sectorisation par zone, accessible ou non accessible dans un aéroport. La biométrie a des taux de performance relativement fiables, et encore de beaux jours devant elle. On parlera un tout petit peu également de l'aspect psychologique de ce décèlement précoce dans les aéroports, qui est le profiling. Certaines personnes arrivent sur des vols sensibles, et on sait dans l'historique des attentats, on va le voir, que le vecteur du passager a très souvent été utilisé, même s'il a été pendant 30 ans dupe. Aujourd'hui, il est un petit peu moins, on le reconnaît, mais le profiling ou le questionnement actif du passager permet et a permis dans le passé d'éviter des drames. De façon un peu plus commune, on parlera du contrôle des bagages de soute, des bagages à main et des passagers. C'est ce qui intéresse aujourd'hui pratiquement tout le monde, c'est-à-dire la détection macroscopique de masse d'explosifs. D'une part, donc ça tout le monde connaît, c'est l'imagerie, rayon X, neutron, gamma, alpha, bêta, tout ce que vous voulez, tant que c'est physique. Et puis on a un autre aspect de la détection qui est volatile, qu'il s'agit de traces ou de vapeurs. Et ici, il y a tout un tas de sciences qui sont sollicitées pour trouver des solutions, parfois plusieurs technologies combinées en une technologie, et le tout effectivement dans un objectif de détection maximale intégrée à l'exploitation. L'une des choses qui aujourd'hui est le plus en vogue dans ce milieu-là, c'est des applications liées aux capacités cynophiles des chiens, par exemple, ou d'autres espèces animales qui ont des capacités naturelles d'olfaction très poussées. L'idée est de savoir comment les intégrer dans une exploitation comme celle d'un aéroport. Je parlerai un petit peu également de ce qui se fait en termes de veille technologique. Il y a énormément de tests, de protocoles, d'expériences qui sont menés à la fois par l'armée, par des laboratoires à travers le monde, et de plus en plus on retrouve des prototypes particulièrement aboutis en termes d'imagerie, de recherche macroscopique ou encore de détection à distance sur les personnes dans les zones de marchandises, par exemple comme le fret, qui pose de nombreux problèmes de traitement à grande échelle. Et donc aujourd'hui, ces technologies recherchent de façon, on va dire, rapide, parce qu'on n'a pas tellement de temps, pour donner des solutions à la problématique du fret aérien. Et je vous parlerai en particulier d'une technologie que je connais un tout petit peu, puisque je travaille pour l'entreprise qui développe ce produit, donc la société Diagnose, où on développe des technologies de détection dans le fret par des chiens, mais un tout petit peu sur un autre processus que celui que vous connaissez avec des chiens police ou armés. Je terminerai évidemment en vous donnant un tableau comparatif global sur l'ensemble de ces technologies, parce qu'il y a beaucoup d'informations et j'ai que 20 minutes, si je me trompe. donc pour vous donner tout ça. Donc je vais essayer de rester dans le temps et je vous résumerai tout ça donc, sur un petit tableau afin que vous puissiez comparer ces technologies avec trois facteurs essentiels. Le taux de détection, qui est très important, le taux de fausse alarme. Rappelez-vous, on est dans un aéroport, chaque minute coûte des milliers d'euros. Donc évidemment, chaque minute de traitement sur un passager ou sur une marchandise a une consonance, une concrète en termes budgétaires. Et bien sûr, la facilitation passager est très importante. On ne peut pas demander à des passagers de venir 4 heures à l'aéroport avant et de faire tout un tas de contrôles, d'envoyer leurs empreintes digitales et je ne sais quoi, avant de prendre l'avion, sinon ils vont prendre le train. Donc il faut bien comprendre que derrière le transport aérien, ce sont des enjeux budgétaires monstrueux, ce sont des régions entières qui respirent, ce sont parfois également des symboles très forts, et donc il faut les maîtriser, ces risques-là, et il faut maîtriser l'exploitation, la détection, et tout ce qui est préventif autour de la menace, en l'occurrence ici, terroriste. Alors justement, cette menace terroriste, je vais aller un peu plus vite pour aller au cœur du sujet. Évidemment que la menace existe, elle est permanente, elle est universelle, elle est sophistiquée, et elle est décomposée par un adversaire, une capacité, une intention. Un dispositif préventif n'a aucunement l'intention de traiter ce genre d'aspect. Évidemment, la lutte contre ce genre de phénomène, elle se base sur deux angles majeurs, vous le savez très bien. Il y a un aspect qui est très curatif, qui se focalise sur l'aspect essentiel de la menace, comme les intentions, la capacité ou l'adversaire en soi. Je parle des forces de police, de services de renseignement, des forces militaires d'intervention. Nous, dans la sûreté aéroportuaire, on est beaucoup plus préventif, c'est-à-dire qu'on cherche à dissuader des gens qui voudraient monter une opération dans un aéroport, et donc on s'intéressera aux vulnérabilités de l'aéroport. C'est-à-dire que tous les flux qui gravitent autour de la cible, à savoir la cible, c'est l'avion, et bien, tous ces flux risquent d'être problématiques et il s'agira d'avoir un dispositif de contrôle. Et on verra que ce dispositif de contrôle sont un petit peu variés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas posés dans le temps, ils sont parfois très souvent déroulés selon des concepts de la démultiplication des contrôles, selon ce qu'on appelle une chaîne de sûreté. Et il s'agira de maintenir l'intégrité de cette chaîne et vous allez voir que les technologies jouent un rôle très important. Donc nous, évidemment, si on a une menace, et qu'en plus on a des vulnérabilités, c'est-à-dire des vecteurs autour de l'avion qui ne sont pas contrôlés, on peut effectivement estimer qu'on a un risque élevé d'attaque contre le transport aérien. Alors évidemment, dans le passé, ces attaques ont été très médiatisées, puisque c'était le but du jeu. Tous les vecteurs ont été utilisés, des années 70 avec la mode des détournements jusque dans les années 80, en passant par l'apogée en 94 du groupe GIA du Paris-Alger. On a souvent utilisé l'avion comme une sorte de bombe embarquée téléguidée avec des personnes kamikazes ou pas à l'intérieur. Le bagage de soute a très souvent été utilisé avec succès pour faire exploser des avions. On parlera de Lockerbie en 88, de l'UTA en 89, etc., etc. La liste est malheureusement très longue. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'approcher des aéroports sans être confronté à des dispositifs de contrôle, que ce soit l'accès piste, l'accès véhicule, l'accès tarmac ou l'accès des lignes de l'espace aérien, mais pas dans tous les pays. Il y a certains pays, comme en Irak en 2003, où on peut facilement attaquer un gros porteur avec un SA-7, un SA-14. C'est déjà arrivé à Orly dans les années 80 avec Carlos qui avait tiré sur un vol d'Elal et endommagé un vol de la Zagreb. Donc aujourd'hui, encore une fois, tout est possible autour d'un avion, puisqu'un avion, par définition même, est vulnérable. Donc là, un peu plus récent, vous avez le cas du 22 décembre 2001, donc d'une nouvelle tendance de l'attaque de l'avion par un individu qui a décidé de se donner la mort. Ça n'a pas été pris en compte et ça n'existait pas pendant les 40 dernières années, à la fois d'un point de vue juridique, mais aussi concrètement sur le terrain, excepté les gens qui faisaient du profiling, qui étaient plus focalisés sur le passager dupe. On ne se focalisait pas sur la possibilité qu'on ait quelqu'un qui vienne mourir avec sa bombe. Aujourd'hui, malheureusement, dans les années à venir, il faudra rajouter ce paramètre dans tous les réglages et tous les seuils de détection dont on va parler maintenant. Vous avez également le cas du bagage à main de l'affaire Hindawi, 1986, une passagère irlandaise enceinte d'un espion libyen qui s'était présentée au profiling d'Elal et qui, donc, par ce questionnement actif, avait éveillé certains soupçons et avec un chien avait réussi à mettre en évidence une calculatrice qui était censée exploser par redondance thermique. Et donc toucher une masse principale dans un autre sac. Donc vous voyez des approches pyrotechniques assez élaborées pour l'époque. Donc pas de limite, aujourd'hui encore une fois, tout est possible. Ces flux sont très importants, surtout au niveau passager et au niveau bagage. Ils n'ont jamais été aussi importants. On tourne aujourd'hui autour de quelques millions de passagers sur une seule plateforme, ce qui signifie en termes d'ergonomie une réflexion très poussée au niveau de la maîtrise des flux. Et quand on parle de maîtrise des flux, il faut à la fois maîtriser les risques d'attaque et intégrer donc des technologies de détection précoce en amont. Donc quels sont tous ces vecteurs d'introduction? On voit pratiquement tout en fait. Que ce soit un véhicule qui accède par la zone, que ce soit un véhicule qui accède par la zone du périph, comme ici, on a énormément de véhicules qui rentrent et qui sortent sur une plateforme, on a énormément d'avions qui ne font pas que du passager, qui font aussi des marchandises, qui livrent du personnel. Ces véhicules sont contrôlés, pas contrôlés, enfin généralement ils doivent être contrôlés. En tout cas, ils représentent un vecteur d'introduction par excellence, comme d'ailleurs les marchandises de fret qui ont très longtemps été utilisées pour livrer des composants de ces chaînes pyrotechniques, notamment des explosifs ou des armes à feu. Donc c'est très difficile de contrôler le fret, ce sont des millions de tonnes par an. Aujourd'hui, on va parler des technologies, vous verrez, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de technologies qui sont en soi une solution globale pour le fret. On est toujours à la recherche de la solution miracle. On va beaucoup parler de bagages de soute, de bagages à main, de passagers, puisque sur les 30 dernières années, les actes qui ont été commis à l'encontre du transport aérien ont principalement utilisé ce vecteur d'introduction qui est à la fois facile, sans risque et très efficace. Alors l'idée, c'est de répartir un aéroport par zone, ce qu'on appelle la sectorisation, dans un premier temps. On ne peut pas avoir des flux entrant et sortant librement dans un aéroport, ce n'est pas possible. Il y a certaines zones qui sont très fonctionnelles. Lorsqu'on parle de zones fonctionnelles, ça ne veut pas dire qu'elles ont une consonance sensible en termes de sûreté, mais elles ont une consonance très sensible en termes d'exploitation et qu'elles seront également sensibles en termes de sectorisation. Donc on a la partie la plus rouge, la plus sensible, c'est celle qui est proche de la cible, donc c'est celle de l'avion, ce qu'on appelle la zone A en secteur sûreté, c'est la partie critique de l'aéroport. Cette zone-là est très réglementée, mais autour de ces zones-là, il y a différentes zones qui le sont un petit peu moins, comme ce sont les zones de traitement de bagages, les zones de traitement de fret, etc., où on doit laisser des gens travailler, donc énormément de flux, très difficile à contrôler, et donc de nombreuses possibilités. Et évidemment, la zone publique n'est soumise à aucun contrôle particulier. Alors tout à l'heure, M. Gérard parlait de liberté individuelle. Il est énormément question de liberté individuelle dans le milieu du transport aérien, et en particulier sur la sûreté aéroportuaire, parce que les mesures et les technologies dont je vais vous parler sont particulièrement intrusives. Alors c'est vrai que lorsque c'est intrusif dans son bagage à main, dans son bagage de soute, ça n'a pas trop d'incidence, quoique le bagage à main c'est quand même assez intrusif, mais sur les personnes, sur le corps des personnes, vous verrez que les technologies qui sont aujourd'hui testées, développées et pratiquement abouties sont relativement trop abouties, entre guillemets, puisqu'on voit énormément de choses. Donc, d'un point de vue juridique, il y aura, je pense, des consensus à trouver, des décisions à prendre pour pouvoir dérouler des procédures qui soient fonctionnelles. Sinon, ben, on aura des associations, des gens qui refuseront de prendre l'avion, etc. Et on a déjà ce genre de soucis, malheureusement. Alors évidemment, tous ces vecteurs doivent être contrôlés. Donc ça va être des postes d'inspection, hein, c'est pas compliqué. Si vous avez des personnes qui arrivent, vous avez un espace qui est très important, des gens arrivent avec énormément de marchandises, beaucoup de monde, pour arriver à l'avion, il faudra que l'on ait des postes de contrôle répartis dans cet aéroport, à un instant T donné pour accéder à une autre zone, et c'est ici que vont s'intégrer nos technologies. Toutes ces technologies dont on va parler font à un moment ou à un autre partie de l'un de ces postes de contrôle et servent soit à contrôler des palettes de fret, des camions entiers parfois, des véhicules, des bagages à main, des bagages de soute, des passagers, des groupes de personnes, voire même des avions. Alors la première technologie dont on a parlé, qui aujourd'hui est assez aboutie et qui est reconnue comme étant fiable, c'est la technologie de détection par rapport aux empreintes digitales, ce qu'on appelle des minuties, qui est très efficace, principalement dans le contrôle d'accès, utilisé, de plus en plus envisagé pour tout ce qui est bancaire, etc., carte d'identité, parce que très fiable, il y a d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Australie qui utilisent pour leur contrôle d'accès dans les zones réservées, aux zones critiques de l'aéroport, la détection de la reconnaissance par l'iris ou la masse volumique de la main, qui sont aussi reconnues comme étant très, très fiables. Donc le profiling, pour se focaliser sur le passager dans un premier temps, le profiling, on part tout le temps d'une hypothèse, on doit avoir une relation avec un passager, c'est énormément de relations en des temps très très courts, et on doit établir des profils selon un flowchart. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, les gens ont fait du profiling avec des listings papier à la main, avec des listes de personnes interdites de vol, etc. Donc aujourd'hui, ça fait des listes très importantes. Donc aujourd'hui, il y a des technologies qui sont associées à cet aspect très humain, puisque c'est quand même une mesure très hors norme, qui est une mesure très humaine, qui est liée à l'observation et à la pertinence et au réveil de l'agent qui est en face du passager. On a rajouté des technologies de comparaison automatique, de matrice ultra-rapide, de tous les listings de passagers qui sont recherchés ou interdits de vol. Ça nous permet de supprimer le document check et de se focaliser sur l'aspect psychologique et donc de se poser la question, est-ce que cette personne est un terroriste kamikaze, donc c'est assez rare. Soit c'est une personne qui est un criminel, c'est beaucoup plus courant. On attrape malheureusement énormément de faux papiers, de trafiquants en tout genre par le profiling, sans faire exprès, entre guillemets. Et puis surtout, c'est à ça que sert ce profiling, est-ce que cette personne ne sait pas qu'elle transporte quelque chose d'une manière ou d'une autre? Et c'est là que par hasard, on n'est pas par hasard, mais qu'on tombe parfois sur de réelles surprises. Donc aujourd'hui, ce profiling est utilisé principalement pour les vols à risque, bien sûr, Algérie, États-Unis, Israël, mais il est de plus en plus envisagé au niveau de l'Union européenne comme une sorte de procédure de base pour une levée de doute dans d'autres dispositifs dont je vais vous parler juste derrière. Alors, le passager, pour continuer sur le passager, mais également le personnel, ce que vous connaissez, je pense, pour ceux qui prennent l'avion, c'est le poste d'inspection filtrage passager. Alors, ça a l'air comme ça simple d'un point de vue passager, lorsqu'on passe le poste, mais en fait, il faut bien imaginer que ces postes sont des éléments très stratégiques dans un aéroport. Il s'agit qu'un seul de ces postes soit en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas, que pour que le gestionnaire d'aéroport ait un chèque assez énorme à faire à la fin du mois. Et c'est pour ça que l'ensemble de ces postes sont connectés entre eux, de manière à pouvoir réagir l'un vis-à-vis de l'autre en cas de défaillance. Parce que très souvent, malheureusement, effectivement, on a des défaillances. Et vous savez, dans un aéroport, on a des flux, on a des saisons dans la journée, on a des pics d'activité, et il faut que ces pifs, ces postes d'inspection, répondent efficacement aux besoins de traitement de ces passagers, toujours dans le cadre de performance minimum. On ne peut pas se permettre de ne pas détecter sur un passager quelque chose, sachant qu'évidemment, un 100% de détection est complètement impossible. Donc il s'agit ici de coupler plusieurs technologies, de gérer le flux donc avec beaucoup de personnel, donc toujours très cher, beaucoup d'argent, et beaucoup de technologies. On a d'une part, évidemment, l'une des premières mesures qui a été mise en œuvre pour éviter les détournements armés, ce sont les masses métalliques, les armes à feu, les cartouches, les armes de guerre, donc un portique de détection de masse métallique qui marche évidemment par ce qu'on appelle le courant de Foucault, le courant induit, donc relativement efficace. Pendant 30 ans, ces dispositifs ont permis d'éviter de détourner des avions facilement, on va dire, mais pas seulement, parce que le rayon X vient ici compléter la recherche visuelle macroscopique de chaînes pyrotechniques. C'est très difficile avec un rayon X, et vous allez comprendre pourquoi juste après, de détecter une chaîne pyrotechnique, parce que ça ne détecte pas les chaînes pyrotechniques, d'accord? Et donc, d'un point de vue-là, le rayon X n'est qu'on va voir qu'un élément supplémentaire technologique donné aux opérateurs, et donc on est toujours, tout à l'heure vous parliez du facteur humain qui est bien, qui permet de personnaliser, de customiser certaines mesures. Chez nous, le facteur humain a plutôt une consonance de vulnérabilité majeure, parce que c'est très difficile de manager des hommes et de les maintenir motivés pour détecter des choses qu'ils ne vont jamais détecter si ça se trouve dans toute leur carrière. Je ne sais pas si quelqu'un un jour a détecté une chaîne pyrotechnique dans un poste d'inspection filtrage. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir un seuil de performance en continu. C'est très facile de l'avoir à un instant donné, de former des gens et de leur donner des compétences, mais de maintenir ça à une très grande échelle. Ce que j'entends par très grande échelle, c'est par exemple 60 millions de passagers pour l'aéroport de Roissy, ça c'est pas possible. Et donc évidemment, il y a des aléas. N'oubliez pas que ces dispositifs sont principalement dissuasifs, mais très difficiles à gérer au quotidien. Et en plus, tous les 2-3 mois, les modifications réglementaires en la matière ne cessent pas, parce qu'elles sont fluctuantes de l'évaluation de la menace, qui malheureusement, elle se porte très bien, généralement. Donc là, on a tout un tas de technologies qui sont intégrées. Donc je vous parlerai d'imagerie, je vous parlerai de détection de traces ou de vapeurs. Aujourd'hui, tous les postes d'inspection en France et même en Europe sont armés, on va dire, avec des détecteurs de traces qui utilisent donc un spectromètre. Donc je vous parlerai de tout ça. Et encore une fois, le meilleur moyen pour contrôler un passager, donc c'est soit de ramener un chien, c'est soit de fouiller physiquement avec ses mains. Et donc ce qu'on appelle la palpation de sécurité est également intégrée dans cette chaîne de contrôle du passager. Alors, le bagage de soute. Alors, le bagage de soute, vous connaissez un petit peu moins parce que c'est moins visuel. Ça se trouve en plus en zone réservée. Il faut savoir que le bagage de soute est une obligation récente qui date que depuis quoi 4-5 ans. J'ai des experts dans la salle. Donc il y a 4-5 ans, c'est-à-dire aux alentours des attentats du 11 septembre, il faut savoir qu'il y avait très peu de bagages de soute qui étaient contrôlés en termes de détection d'explosifs, ce qui n'est pas très rassurant. Et très rapidement, l'Union européenne, l'OSCE, la CEAC, toutes les organisations, elles ont pris le taureau par les cornes et se sont dit qu'il faut absolument régler ce problème-là. Techniquement, il y a des technologies qui existent, qui permettent de détecter depuis une dizaine d'années, avec des algorithmes et des taux de traitement très rapides, ce qu'on appelle les EDF, et bien très rapidement, ils ont fait des travaux, ils ont travaillé sur cette plateforme, et ils ont intégré dans une sorte de chaîne de traitement du bagage, depuis la zone publique jusqu'à la zone réservée, en fait jusqu'à l'avion, tous les bagages de soute doivent passer un contrôle. Mais pas un seul contrôle, plusieurs contrôles. C'est-à-dire, rappelez-vous, l'idée c'est de démultiplier le contrôle pour rendre un contrôle efficace, et donc vous avez ce qu'on appelle un primary EDF, c'est-à-dire un premier explosive detection system qui va donner un premier diagnostic automatique, sans intervention d'un être humain. Généralement, 70% des bagages vont dans l'avion, donc beaucoup d'économies d'argent. Hein, c'est ça l'idée qu'il y a derrière, parce que là, on traite des millions et des millions de bagages. Deuxième niveau, les 30% qui ont été rejetés parce que la machine a estimé que la masse volumique de la matière transpercée ou que l'absorption de l'azote, ou il y a tout un tas de paramètres dans ces machines, a indiqué qu'il y avait potentiellement de l'explosif, ça va dans les yeux d'un opérateur qui, lui, va appliquer un protocole, et là aussi c'est très problématique, parce qu'un protocole d'imagerie, ça reste toujours une décision humaine, c'est associé à une interprétation d'image radiologique comme un médecin, sauf que les médecins font 5 ans plus 3 ans d'études pour être radiologue, et que les agents de sûreté dans les aéroports internationaux, je suis un responsable de la formation ici, en général ne font pas plus d'une semaine ou 10 jours dans le meilleur des cas. Et donc c'est très très difficile d'avoir ici donc des diagnostics, on va dire, toujours systématiquement justifiés. En l'occurrence, ces machines sont là pour les aider à prendre la décision, mais c'est eux qui prennent la décision. D'où le nombre d'erreurs, ou de ratés, ou de non-détections importantes, ce qu'on appelle donc ou les fausses alarmes. Très souvent, on a des fausses alarmes non justifiées, qui coûtent énormément en grande quantité, et qui sont malheureusement liées à ce facteur humain qui est un peu vulnérable. Troisième niveau, vous avez donc un EDF qui vient en complément du premier, qui généralement est un tomodensimètre. Un tomodensimètre, c'est un rayon X, un super rayon X si vous voulez, mais qui découpe les bagages en trois dimensions. Un rayon X classique ou un EDF classique ne vous donne qu'une vision binaire des choses, certes en trimatière, c'est-à-dire organique, métallique et inorganique, mais ici avec la tomodensimétrie, vous avez également une vision 3D. C'est comme quand vous allez chez le médecin et vous faites une radio du cerveau, vous pouvez faire des coupes pour rechercher la tumeur, et bien avec un tomodensimètre, vous pouvez découper le bagage avec des slices de 0,5 mm, et donc s'il y a un détonateur, s'il y a une masse organique suspecte, vous devez être capable de la mettre en évidence, ou en tout cas d'avoir un doute sur la présence d'une chaîne pyrotechnique ou pas. Et le dernier niveau, si vous avez un doute, donc vous voyez, on est dans des pourcentages très bas, on a économisé beaucoup d'argent. On est à 3% seulement de rejet, 0,75% de rejet pour 3% de validé. Ça fait un bagage sur 1000 qui est rejeté en troisième niveau. Bon, ça veut dire qu'on rejette une cinquantaine de bagages par jour dans nos aéroports à Roissy. C'est ça à peu près, grosso modo. Ce qui est quand même pas mal, il y a 5 ans, on en rejetait entre 300 et 400 par zone. Et donc en termes de budget et de temps, ça n'avait pas du tout la même consonance. En tout cas, si on a un problème au niveau 4, c'est-à-dire que l'opérateur du tomographe ne peut pas donner de décision, eh ben on appelle le passager pour faire une fouille depuis 4 ou 5 ans de la nouvelle réglementation. Et le passager, s'il ne veut pas descendre ou s'il est introuvable, ben on appelle les chiens et le service de déminage. C'est aussi simple que ça. Mais vous voyez le ratio pour lequel on appelle les chiens, comme avant, on appelait tout de suite en niveau 2, eh ben aujourd'hui on a optimisé le dispositif et on appelle le déminage que pratiquement une fois toutes les deux semaines. Ce qui est quand même pas mal, puisqu'ils savent que quand ils viennent, c'est qu'on a vraiment, vraiment un gros problème. Alors je continue, parce que là maintenant, il faut qu'on parle des technologies. Donc quelles sont ces technologies dont je vous parle? Il y a deux grandes familles de technologies de détection. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont présentées dans tous les laboratoires américains, anglais, australiens qui travaillent sur ces choses-là. Il y a ce que l'on appelle des traces ou vapor EDF systèmes, donc des détecteurs de traces ou de vapeurs, physiques ou volatiles. Alors si c'est des vapeurs, il faut les capturer, ces vapeurs, vous verrez que ce n'est pas très facile. Et puis sinon, on a ce qu'on appelle les bulk detections, ce sont des détections très physiques, de masse macroscopique, qui sont présentes visuellement dans des objets. Et donc là, c'est toutes les technologies donc, de l'imagerie. Donc on a l'imagerie rayon X, avec plusieurs types d'énergie possibles, ce qu'on appelle le dual energy, la transmission simple energy, la tomodensimétrie, et puis tout un tas de ce qu'on appelle de backscattering, qui sont des technologies basées sur des générateurs de rayons X, mais qui en termes de récupération d'images, vous donnent d'autres types d'images, parfois beaucoup plus précises qu'une transmission standard. Donc on parlera également rapidement des technologies du nucléaire, donc tout ce qui est neutrons et gamma, qui sont utilisés, encore une fois, pas beaucoup dans une utilisation très civile, parce que ce sont des rayonnements très dangereux en termes de radioprotection, mais il y a certains métiers, et là je fais allusion à la douane par exemple, qui utilisent le rayon gamma ou neutron dans le contrôle de camions, mais vous verrez que l'imagerie à neutron est très particulière. Voilà, sinon on va voir des technologies comme les chiens, les abeilles, les rats, les insectes, les dauphins, tous les animaux qui ont des facultés de détection très développées. Aujourd'hui, ils sont dans des cadres militaires très sollicités. De plus en plus, on envisage dans un cadre civil d'en trouver des applications intégrées à, par exemple, l'exploitation du transport aérien. Donc il y a des tests très très poussés concernant notamment les abeilles. Alors l'imagerie, c'est pas compliqué. Trois types de couleurs, vous voyez, organique, inorganique, métallique. Par rapport à ça, il faut donner un diagnostic. Quand vous avez un P38 dans un bagage, c'est très facile, parce qu'un P38, c'est du barium, c'est très dense, ça a un contour très facile à identifier, vous faites un zoom, vous avez trouvé. Par contre, quand vous avez une chaîne pyrotechnique qui est montée avec un détonateur à l'intérieur, qui est camouflée dans le contour de la balise, comme ça a été le cas très souvent, ça n'est plus du tout la même chose. Donc le tomographe, le tomodensimètre qui est utilisé en niveau 3, nous permet d'avoir des diagnostics quasi médicaux sur des bagages, et en plus, concrètement, dans l'exploitation, les gens qui travaillent derrière des tomographes n'ont pas de temps d'analyse. Alors que ceux qui travaillent dans des chaînes au niveau 2 et au niveau 3 ont des temps d'analyse entre 12 et 20 secondes, ce qui est assez contraignant d'un point de vue résultat. Si vous dites à quelqu'un vous n'avez que 12 secondes pour analyser le bagage, la plupart du temps, il n'a pas assez de temps pour vous donner un diagnostic. Soit il rejette le bagage systématiquement, vous faites augmenter le taux de fausse alarme, soit il dit qu'il n'y a rien dans le bagage et en fait, il y avait quelque chose et donc on ne le verra pas. Et dans tous les cas, ça reste problématique dans l'approche. Alors l'imagerie sur les personnes a fait énormément de progrès. Aujourd'hui, on arrive à trouver des imageries à base de générateurs de rayons X qui ne sont pas dangereuses pour la santé, parce que quand même le rayon X n'est pas très sain pour la santé. À très forte dose, ça crée des séquelles irréversibles, voire la mort. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le XR3000, des body X-ray scanning qui sont en test et qui permettent de visualiser même très très bien le corps humain depuis l'intérieur. Et donc si vous avez des stupéfiants, si vous avez des explosifs cachés sur une ceinture d'explosifs ou des choses comme ça, comme on l'envisage aujourd'hui, ou voir des explosifs artisanaux, ces machines devraient permettre de visualiser à l'intérieur. Alors les ondes millimétriques sont également très prisées en ce moment, puisqu'elles ne sont pas du tout dangereuses pour la santé, dans le sens des rayons X, parce qu'elles ne font pas partie dans le champ électromagnétique du même spectre, elles sont dans un autre endroit, et donc beaucoup moins pénétrantes et dangereuses pour la santé. Et elles donnent une image très intéressante également. Bon, aujourd'hui, il y a ces machines qui sont en test dans certains aéroports, d'ailleurs en Europe et même à Paris, et on attend de voir ce que ça donnera, sachant qu'encore une fois, l'utilisation de ces technologies est fortement tributaire des réglementations liées aux libertés individuelles, et là je reviens vers vous encore une fois, parce qu'on ne pourra pas utiliser ces machines tant qu'on n'aura pas trouvé de consensus juridique de leur mise en œuvre. Et on n'y est pas du tout. Alors il y a d'autres choses qui existent, on va voir après, mais qui sont dans la veille technologique. Alors les rayons, la détection macroscopique se traduit aussi par d'autres types de rayonnements, comme les rayons à neutrons. Les rayons à neutrons donnent des images assez rigolotes, parce que ce n'est pas du tout les mêmes images que le rayon X. Autant le rayon X peut vous montrer la densité de la matière, ici le neutron ne vous montre pas la densité de la matière, il vous montre les contours et il peut vous différencier dans l'espace un matériau suspect que vous aurez prédéfini, ce qui est très utile d'un point de vue douane, ce qui est très utile d'un point de vue contrôle frontalier, notamment dans les ports maritimes, etc., puisqu'il y a des marchandises non déclarées, des marchandises dangereuses, des matériaux sensibles, des trafics en tout genre, dans des grandes palettes ou dans des grands camions que l'on fait passer dans des arches, dans des portiques, et donc une fois qu'il est rentré dans le portique, il y a un balayage comme ça, avec une réception de l'image qui est traitée en informatique, et aujourd'hui les progrès de l'informatique nous permettent d'avoir des diagnostics ultra rapides en 3-4 secondes par camion, et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ce sont des technologies relativement efficaces, mais assez peu applicables dans une application, on va dire, passager ou balayage, parce que assez dangereuse. Alors j'accélère, là on a des technologies qui sont plus concrète, comme vous pouvez voir tous les jours dans les aéroports. Le détecteur de traces que vous voyez ici, qui est développé par Smith Detection, aujourd'hui est pratiquement dans tous les aéroports de France. Vous passez un poste d'inspection filtrage passager, vous allez passer votre détection de masse métallique, vous allez passer l'imagerie radioscopique. Si on ne vous a pas demandé de vous fouiller, on peut vous demander d'aller sur une table de fouille et on va vous faire ce qu'on appelle un prélèvement avec un tissu piège de masse macroscopique sur vos vêtements, sur les boutons, sur votre attaché-caisse pour essayer de détecter des explosifs. La technologie qui est utilisée pour faire ça, c'est une technologie qui existe depuis une décennie, surtout par le milieu médical, encore une fois, ou de la recherche, mais aussi policier, puisque ce sont des spectromètres de masse qui permettent de détecter la nature des matériaux. Donc dans les enquêtes policières, on connaît très bien ça dans les laboratoires. Ici, ça en est une version un peu plus appliquée, ce qu'on appelle un IMS, c'est-à-dire qu'on marque les ions des molécules. On sait que les ions, par exemple, ont des affinités positives, négatives, etc. Donc on utilise ce marquage par affinité positive ou négative, polaire, pour identifier des ions après un marquage radioactif, par du nickel 63, dans un spectre. Et une fois qu'on a mesuré la vitesse de tous ces atomes à l'intérieur du spectre, on définit des algorithmes, et on sait que les explosifs ont une certaine réaction, on sait que les autres ne l'ont pas, et on peut obtenir un diagnostic ultra précis en fonction du type d'explosif détecté, et avec des seuils de détection qui vous indiquent le taux de fiabilité. Ce genre de machine aujourd'hui a rencontré un franc succès dans tous les laboratoires internationaux, il y en a encore plein d'autres en développement, mais celle-ci est très facile à utiliser. Elle n'est pas dangereuse pour les personnes parce que le nickel 63 est protégé dans une bulle de plomb à l'intérieur de la machine et personne n'est censé l'ouvrir. Et on a un taux de traitement jusqu'à 30 personnes à l'heure, ce qui est très intéressant lorsqu'on parle de passagers. Alors vous avez les laboratoires Sandia qui développent un spectromètre de masse sous forme de portique avec une sorte d'aspiration des molécules qui sont sur les personnes, toujours en macroscopique. Prototype qui aujourd'hui existe sous une version commerciale qui s'appelle le Guardian, mais qui coûte toujours 2 millions d'euros. Donc aujourd'hui, personne n'a envie de mettre 2 millions d'euros pour contrôler 5 passagers à l'heure, parce qu'on a un temps d'analyse qui est très long. Mais encore une fois, celui qui trouve la solution sur le temps d'analyse et le taux de traitement à l'heure, ben, il a gagné un beau contrat. Alors, concernant le fret, il n'y a malheureusement pas énormément de solutions pour le fret. Le fret, aujourd'hui, est contrôlé principalement par un dispositif très très en amont, qui permet d'identifier les envois, c'est-à-dire qui a envoyé la marchandise, agent habilité, etc., consigneur. Par exemple, dans la détection sèche dans le fret, il n'y a rien qui existe, à part le rayon X aléatoire. Une des choses qui a été proposée, développée et validée par nos services et notre laboratoire, c'est le système RASCO qui permet en fait d'aspirer dans des filtres avec un compresseur inversé les molécules d'un camion avant de le décharger, donc une fois que le camion est parti. On intègre ce filtre, cet échantillon, dans un processus dynamique et dans une zone de traitement avec un chien. Donc le chien ne travaille pas, il travaille seulement à la demande, donc il peut travailler toute la journée. Et le chien va faire avec une sorte de protocole, un marquage sur ce filtre. Et on a obtenu des taux de détection sur ce genre de technique relativement élevés, puisqu'on est au-dessus des 90%, sachant que toutes les autres technologies ne dépassent pas les 80 ou les 70%. Taux de fausse alarme très très faible, 2% seulement, alors qu'on a un temps de traitement gros maximum de 50 minutes. Donc vous voyez bien que pour le fret, lorsqu'on a le camion qui arrive et la mise dans l'avion, après la validation sûreté, 50 minutes. Donc il n'y a personne qui a aujourd'hui de solution pareille. Encore une fois, ça n'est pas réalisable à grande échelle de façon globale, mais c'est une des solutions qui intègre à la fois capacité olfactive naturelle du chien ou d'un autre animal, si vous voulez, et à la fois technique appliquée par le fait qu'on a un compresseur inversé, zone de traitement stérile, etc. etc. Et toute une gamme d'explosifs possibles à détecter, et même plus que ça, on peut même détecter tous les nouveaux explosifs qui arrivent sur le marché avec un entraînement assez minimal. C'est vraiment très très efficace. La veille technologique, elle aussi, recherche tout azimut des solutions de détection. On parlait tout à l'heure des abeilles. Vous avez des prototypes développés par une société anglaise ici qui n'a pas lésiné à attraper des abeilles et à les observer pendant de longues années. Et ils ont découvert qu'elles sécrétaient des hormones, etc. Et donc aujourd'hui, il y a des prototypes où on utilise ces capacités naturelles, donc des antennes de détection dans l'espace et la sécrétion de l'hormone pour les faire réagir avec un réactif chimique et avoir des seuils de détection sèche très 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 élevés. On est au-delà du 98% de détection pour le dispositif de la sentinelle. On a également trouvé un nouveau domaine inconnu dans le spectre électromagnétique, entre les ondes millimétriques et les rayons laser, ce qu'on appelle les rayons terahertz, au niveau militaire très très abouti, et donc dans pas très longtemps, on pense voir arriver sur les aéroports pour des tests, certains prototypes qui permettent de détecter à distance sur les personnes, et de façon très précise. Alors il y a également des choses très rigolotes, comme par exemple, pour le déminage humanitaire, une société danoise qui a modifié génétiquement une plante, qui permet de changer de couleur en présence de printemps ou de TNT ou de tolite. Dans un champ, ce qui est assez remarquable. Mais bon, on n'est pas encore dans un aéroport. Pour conclure, La détection des personnes, vous voyez, le détecteur de traces et de vapeurs a un taux de détection élevé avec 80%. Par contre, le taux de traitement à l'heure est uniquement de 30 personnes, ce qui pose un gros problème d'exploitation. Donc une vraie réflexion à avoir là-dessus. Le contrôle des bagages à main, le détecteur de traces et de vapeurs, le rayon X, vous voyez, on a des problèmes au niveau des performances parce que beaucoup de fausses alarmes, taux de détection relativement faible, mais c'est tout ce qu'on a pour le moment. Et c'est vrai que les équipes cynophiles, qui sont impossibles à mettre en œuvre pour contrôler 60 millions de passagers, ont le taux de détection le plus élevé, 90%, et 200 unités à l'heure. Donc ce qui est normalement pour un poste de passagers, techniquement, c'est vraiment le chien le plus efficace. Bagages de soupe, tomo densimétrie, rayonnement 3D, EDS automatique, on est bien dans des technologies qui répondent plus ou moins à la demande. Mais attention, les détecteurs de traces et de vapeur ont des taux de traitement très faibles, hein, autour des 60. Pour le fret, il n'y a pas mieux que le chien, 90% en moyenne de détection pour 1000 unités à l'heure. Donc encore une fois, aujourd'hui, on est au rayon X, vous voyez, 60% de taux de détection, c'est pas énorme, 50% de fausses alarmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande à ouvrir une palette, il y a un problème, pratiquement. Et puis effectivement, 75 unités à l'heure, c'est pas énorme lorsqu'on doit traiter des millions de tonnes de fret à l'année, ça n'est pas possible. Donc malheureusement, toutes ces mesures de sûreté, toutes ces technologies doivent être vues avec un regard très, très sincère, c'est-à-dire de se dire, entre les objectifs de coût, les objectifs de facilitation, et puis effectivement les objectifs de sûreté, parce qu'on est quand même tenu à certains résultats, on ne peut pas se permettre de ne pas détecter des choses évidentes, mais il faudra toujours trouver un consensus, à la fois juridique, à la fois professionnel, technique, et à la fois d'intégrer toutes ces technologies de façon concertée, et c'est ça toute la problématique de la sûreté aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, j'étais très très vite, je suis désolé. La minute pile.
Bien, une ou deux questions, si vous le voulez. Oui. Bonjour, donc Michel Arrouse, étudiant à l'ICC. Donc, je trouve toujours le sujet très intéressant. Et alors, ma question, elle porte surtout sur la compétence.